Donc Jean chapitre 17, versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Puis verset 24, juste la fin de la prière aussi. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Nous qui étudions la prière ensemble en tant qu'Église, voilà, nous sommes très bien servis par ce passage. On pourrait dire que c'est la plus grande prière de la Bible. C'est la plus longue prière dans le Nouveau Testament. C'est une prière de Jésus lui-même. C'est la prière que Jésus, le Fils de Dieu, va prier dans le moment le plus important, le plus intense de sa vie. Et nous avons donc tout ce chapitre 17 de Jean qui est une prière du Fils de Dieu vers son Père, aussi Dieu. Alors, selon les autres évangiles, selon Jean aussi, nous savons que Jésus a beaucoup prié. On trouve Jésus en prière souvent, des nuits de prière, pour tous les moments importants de sa vie, il priait lors de son baptême, lors des choix de disciples, lors de sa transfiguration, lors de la crucifixion dans le jardin de Gethsémané. On sait que Jésus a beaucoup, beaucoup prié, et c'était un élément essentiel à son ministère. Mais à part quelques phrases courtes, c'est assez rare que les évangiles nous rapportent le contenu de sa prière. Nous avons les courtes prières qui sont riches de sens, bien sûr, quand il dit, par exemple, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse ». Une excellente prière, mais ça reste assez court. Donc c'est assez rare que nous avons tout le contenu de ces prières. Mais ici, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, nous avons une longue prière, une belle prière de Jésus. Et tellement cette prière contient des richesses, nous allons l'étudier en deux fois. C'est pour ça que nous n'avons pas tout lu ce matin. J'ai juste pris la première requête, le premier sujet de prière que Jésus va évoquer. Et je me dis qu'il y a plusieurs avantages à méditer cette prière de Jésus, une prière de Jésus. Quand Jésus prie, c'est forcément une prière parfaite. C'est une prière parfaitement formulée et c'est une prière qui sera parfaitement exaucée. Et ça c'est merveilleux. Nous devons apprendre à prier au nom de Jésus. Mais Jésus, lui, il prie toujours au nom de Jésus. Il est Jésus. Il prie au nom de Jésus. Nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Mais Jésus, il prie toujours selon la volonté de Dieu parce qu'il est Dieu. Il partage la pensée de Dieu. Il partage l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, son esprit, l'esprit de Dieu. Alors, bien sûr, il connaît les projets et les pensées de Dieu pour prier selon sa volonté. Lorsque nous prions, nous sommes devant Dieu. Parfois, nous pouvons être intimidés. Nous sentons notre péché, notre faiblesse, notre petitesse. Et nous n'osons pas demander peut-être tout ce qu'il faudrait demander. Mais Jésus, il n'est pas intimidé par le Père. Il n'y a pas le problème de péché pour lui. Il est devant le Père et il n'est pas intimidé, il peut livrer vraiment tout son cœur et prier ce qui convient de prier. C'est pourquoi certains appellent ce chapitre le Saint des Saints des Écritures. Parce que nous sommes là, nous pouvons observer, nous pouvons écouter cette conversation entre le Fils et le Père qui partagent une relation parfaite d'amour depuis toute éternité. Et nous sommes là et nous pouvons les écouter, échanger sur des choses extrêmement riches. Et je me dis que de savoir que la prière vient de Jésus, ça nous rassure aussi parce que nous savons qu'elle sera parfaitement exaucée. Tout ce que Jésus va prier dans ce chapitre, nous savons qu'il sera exaucé. Il me semble que j'ai entendu une histoire une fois, c'est une église qui cherchait un lieu de rencontre, une salle de culte, et ils avaient repéré un restaurant qui était disponible dimanche matin. Alors, ils sont allés voir le gérant, le patron, et lui ont demandé de pouvoir leur prêter la salle, mais ce patron n'était pas chaud, il ne voulait pas prêter aux chrétiens. Et peu après, de manière fortuite, ce groupe de chrétiens, ils ont rencontré le propriétaire de toute la chaîne des restaurants. Et lui, je ne sais pas s'il est chrétien, en tout cas, il était très favorable à l'idée que ce groupe se réunisse dans ce restaurant. Alors, ils ont retourné ensemble voir le patron, le gérant. Et cette fois-ci, c'est pas les chrétiens qui ont fait la demande, c'était le propriétaire lui-même de toute la chaîne des restaurants qui a fait la demande. Alors forcément, ils sont allés avec un autre esprit, dans un autre esprit, avec assurance, avec certitude que la requête allait aboutir. Et c'est un peu comme ça dans notre prière. Nous venons avec devant Dieu, nous avons nos requêtes, mais là, c'est Jésus lui-même. Et c'est même pas une relation de propriétaire, de patron, mais c'est le Fils de Dieu qui demande à Dieu lui-même, le Père. Alors, c'est pour ça que cette prière est tellement merveilleuse et nous allons pouvoir l'étudier. Nous trouvons les meilleures requêtes possibles et une certitude qu'elles seront exaucées. Alors justement, ce matin, j'aimerais voir deux choses. La requête du Fils, la première requête du Fils, et puis l'exaucement du Père. Comment il va exaucer cette prière de la meilleure manière. Donc prenons, c'est dans ces premiers versets. On a l'habitude de diviser cette prière en plusieurs parties. Jésus prie d'abord pour lui-même, ensuite il prie pour ses disciples, les apôtres, les doux, et puis il prie pour les futurs chrétiens, les futurs disciples. Et nous allons regarder juste la première partie ce matin, les premiers 5 versets, et on va essayer de comprendre maintenant quelle est la requête, quel est le premier sujet de prière de Jésus dans sa prière. Alors je relis ces versets à partir du verset 1. Il s'adresse à son Père, l'heure est venue, « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et enfin, il termine avec la même pensée, verset 5, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. » Alors, la phrase est très dense, assez difficile à suivre. Il y a tous ces « afin que » et « selon que » et « afin que » et « c'est que » toutes dans la même phrase. Alors, essayons de comprendre pourquoi Jésus prie. Ça peut aider de savoir que la gloire de Dieu, puisqu'il parle de la gloire, il prie de glorifier, la gloire de Dieu dans la Bible, c'est souvent l'idée de la révélation, de la manifestation de Dieu. Quand on parle de la gloire, on parle de l'éclat visible, des qualités invisibles. Alors, quelque part, la prière de Jésus, c'est « glorifie-moi, afin que tu sois glorifié, afin qu'on puisse nous connaître. Montre qui je suis vraiment, pour qu'on puisse te voir, te connaître pour qui tu es vraiment. Et pour cela, je vais leur accorder la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître. » Donc, au cœur de sa prière, c'est cette demande que les gens puissent, que nous puissions connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut avoir la vie éternelle. Sa prière, c'est un peu les mêmes idées qu'on retrouve quand il dit « J'ai fait connaître ton nom ». C'est aussi cette idée de glorifier, de faire connaître toute la valeur, toutes les qualités, tout le renom de Dieu. Dans la Bible, le nom de Dieu, c'est tout ce qu'il est, c'est toutes ses qualités, c'est toute sa gloire. Donc, faire connaître son nom ou de le glorifier, ça revient un peu au même. Donc, ce que Jésus demande, c'est que son peuple ait une connaissance de Dieu, qu'ils aient accès à Dieu, à tout ce qu'il est, à toute sa gloire, à tout son amour. Et il termine la prière avec plus ou moins la même requête, vous avez vu dans les versets 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ce que me donnez soit aussi, afin qu'ils voient ma gloire, afin qu'ils me connaissent. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que je sois en eux. Alors Jésus veut être connu, il veut que Dieu soit connu. Glorifie-moi, rends-moi célèbre, fais-moi connaître. Fais-toi connaître. Voilà la prière de Jésus. Est-ce une prière égoïste? Glorifie-moi. Rends-moi célèbre. Ce serait difficile, délicat, même faux pour nous de prier une telle prière. Glorifie-moi, fais-moi connaître. Mais Jésus le prie. Est-ce une prière égoïste? Nous croyons que non, ce n'est pas une prière égoïste. Et c'est même la meilleure prière qui soit. Puisque Dieu est un être infiniment glorieux, rempli d'amour. Alors connaître Dieu, c'est la chose la plus épanouissante, c'est la plus nécessaire, la plus essentielle, la plus satisfaisante qui soit pour nous. Et donc la prière de Jésus ici, c'est formidable. Quelqu'un disait, un pasteur disait, notre besoin suprême est de connaître Dieu. Le besoin suprême de l'être humain, c'est de connaître Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce besoin suprême? Quelle est votre ambition suprême? Quel est votre besoin suprême ce matin? Notre besoin suprême est de connaître Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Le monde va répondre de différentes manières sur notre besoin suprême, mais d'après la prière de Jésus, nous savons qu'il va prier les choses les plus importantes, les plus prioritaires. Eh bien, notre besoin principal, c'est de connaître Dieu, de voir ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire de voir sa gloire. Je me dis que je vois ça de plusieurs manières quand je regarde autour de moi, quand je regarde ce monde. Je vois d'abord une grande soif d'amour et du relationnel. Et nous voyons que nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Alors c'est vrai que les relations humaines nous apportent beaucoup, mais elles sont limitées. Parfois elles apportent même beaucoup de douleur. Et finalement, il n'y a qu'une relation intime et personnelle avec le Dieu de l'univers, avec notre Créateur, qui peut nous combler. Et c'est pour ça que nous avons besoin de le connaître. Donc si on regarde cette soif d'amour et du relationnel, elle trouve sa réponse aussi dans la connaissance de Dieu. Je me dis aussi, quand je regarde notre soif de divertissement, on dit que le malheur de notre siècle, c'est l'ennui, la soif du divertissement. On parle des fois de la fièvre de Marie-Antoinette, qui malgré tout le luxe dont elle bénéficiait, elle peut dire rien n'a plus de goût, rien n'a plus de saveur. Et nous constatons ce même phénomène autour de nous. C'est Pascal qui disait, ce philosophe français, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » On a constamment besoin de nous divertir, et lui était assez prévoyant. À l'époque, ils n'avaient même pas Internet et Wi-Fi. Mais Pascal va dire « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c'est la plus grande de nos misères. » Sans le divertissement, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Et donc, encore aujourd'hui, cette soif, ce constat que parfois on s'ennuie, alors au lieu de gérer cet ennui en cherchant des choses qui peuvent vraiment combler, on se tourne vers les divertissements. Mais la solution, il me semble, c'est de connaître Dieu. C'est lui seul qui apporte une vraie solution à l'ennui, à cette anorexie spirituelle que nous vivons. C'est Dieu qui peut le combler, connaître Dieu. Alors bien sûr, ce matin, quand je parle de connaître Dieu, c'est pas connaître beaucoup de choses au sujet de Dieu. Connaître Dieu, c'est pas subir une prédication qui soit trop longue, trop ennuyeuse. Connaître Dieu, ce n'est pas télécharger 3 gigas de références théologiques sur sa tablette. Connaître Jésus, connaître Dieu, ce n'est pas juste faire l'histoire des religions. Connaître Dieu, ce n'est pas grandir dans l'Église, forcément. Connaître Dieu, c'est de le connaître de manière juste, justement, en vérité. Ce qui veut dire passer par une connaissance de Jésus-Christ, qui est l'éclat visible, qui est la manifestation de Dieu. Connaître Dieu, c'est le connaître de manière profonde, intime. C'est de vivre cette relation pour laquelle nous avons été créés. Et pour connaître un Dieu éternel, pour connaître un Dieu si glorieux, il nous faut une vie éternelle, il nous faut une éternité. On se rappelle, ce verset nous rappelle, ce verset 3. Je trouve si fort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Quelle est la vie éternelle, selon ce verset? C'est de connaître Dieu. Ça veut dire que la vie éternelle, ce n'est pas juste une existence sans fin. L'immortalité qui intéresse tant de personnes, l'immortalité sans Dieu, ça s'appelle l'enfer. Mais la vraie vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir accès à sa personne pour l'éternité. Alors de connaître Dieu, d'être exposé à sa gloire, de pouvoir l'aimer, être aimé en retour par lui, c'est ça le paradis finalement, c'est ça la vie éternelle. Et ce qui est beau même, c'est que cette vie éternelle peut commencer maintenant puisque nous pouvons connaître Dieu. C'est ce que Jésus veut pour nous et souhaite pour nous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus prie qu'il soit glorifié, qu'il soit mieux connu, qu'il soit élevé pour être connu. Alors je me dis qu'il y a des grandes implications pour notre vie de prière. Nous avons déjà évoqué ces choses ce matin dans notre culte. Mais si Jésus prie ces choses, nous pouvons savoir que c'est le sujet de prière par excellence. Pour nous-mêmes, pour notre entourage, quel que soit ce que nous vivions, quel que soit ce que nous traversons. C'est ce que Paul prie pour ses amis, pour les églises qu'il connaissait. Nous avons lu ce beau passage en Colossiens. Je vous propose un autre en Éphésiens. On trouve la même idée, mais en Éphésiens chapitre 1, verset 16. Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » C'était encore peut-être une longue phrase, mais le cœur de sa prière, c'est « Je prie que vous ayez la connaissance de Dieu. » C'est ça qu'il vous faut pour traverser tout ce que vous traversez, pour vivre votre vie chrétienne. Et finalement, c'est ça le but de toutes les expériences, et toutes les situations et toutes les épreuves par lesquelles Dieu fait passer ses enfants, afin de mieux le connaître, afin de mieux voir qui il est vraiment, afin de mieux goûter toute sa beauté, toute sa gloire, afin de nous préparer à mieux apprécier sa gloire pour l'éternité. Voilà ce que Jésus prie dans cette prière. Est-ce que vous priez ça pour vous-même? Est-ce que vous priez ça pour les autres? Qu'on ait cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qui seul peut combler vraiment, qui est notre besoin essentiel, notre besoin suprême. Voilà la prière de Jésus. Voilà ce qu'il demande maintenant, voyons l'exaucement de sa prière. Nous avons dit que les prières de Jésus sont parfaitement formulées. Il demande les choses les plus importantes, les plus essentielles, les meilleures. Et nous avons dit que les prières de Jésus sont parfaitement exaucées, puisque c'est le Fils de Dieu qui les prie. Et cet évangile nous a déjà préparé à savoir que les prières de Jésus sont toujours exaucées. Quand il est devant le tombeau de Lazare, il dit « Je sais que tu m'exauces toujours. » Cet homme dont il a ouvert les yeux, l'aveugle, il dit « Moi, je sais que... Voilà, » On n'est pas exaucé si on vit dans le péché, mais cet homme, il a été parfaitement exaucé. Alors Jésus, il est exaucé, donc il prie, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Fais connaître, révèle qui est vraiment, qui je suis vraiment, pour que moi je peux révéler qui tu es vraiment. Et pour ça, il va falloir donner la vie éternelle. Pour qu'on puisse nous connaître parfaitement. Alors comment Dieu a-t-il glorifié son Fils? Comment a-t-il montré toutes ses qualités? Comment Dieu a-t-il fait pour accorder la vie éternelle à ses enfants? Bien, la réponse à cette prière, vous le savez, mais la réponse concrète de cette prière, c'était ce qui va se passer dans les heures, les jours qui vont suivre, c'était la croix qui sera suivie de la résurrection. Mais La réponse, l'exaucement de cette prière, c'est la croix. Et Jésus le sait lui-même, puisqu'il commence sa prière en disant « Père, l'heure est venue ». L'heure est venue pour Jésus, c'est cette heure, nous l'avons déjà appris dans cet évangile de Jean, cette heure, c'est l'heure de sa mort. C'est son heure la plus glorieuse. C'est l'heure pour laquelle il est venu. Cette heure, c'est l'heure où il va être élevé, il va être glorifié, mais étonnamment sur une croix. Et c'est grâce à cette croix et la résurrection qui suit que Jésus peut, dans sa prière, il peut déjà anticiper les choses, la manière que Dieu va exaucer sa prière. Quand il dit, par exemple, en verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Jésus, le Créateur, il a déjà pouvoir toute chair, mais par la croix et la résurrection, comme il va dire après, il gagne l'autorité. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, verset 4. Il va vraiment achever cette œuvre à la croix. Et donc, il anticipe déjà la réussite de sa demande par la croix. Est-ce que c'est l'exaucement auquel on s'attendait? Glorifie ton Fils. Fais-moi connaître. Et la réponse, la croix. Normalement, on n'aurait jamais associé la gloire et la croix. On a chanté tout à l'heure, cette croix est gloire et victoire pour moi, mais jamais, jamais, jamais on imaginerait un tel chant à l'époque romaine. Une croix glorieuse, impossible. Ce serait, comme disait quelqu'un en commentaire, ce serait comme parler du vomi délicieux. Impossible. Une croix glorieuse. Mais c'est la croix qui nous dévoile, qui révèle qui est Dieu vraiment et qui nous permet de le connaître vraiment, son amour, sa grâce, sa gloire. C'est la croix qui règle tous les obstacles à une connaissance de Dieu qui souvent nous échappe. Déjà notre indifférence à quelque chose de si glorieux et pourtant on se tourne vers les choses ennuyeuses. Notre indifférence, notre péché, notre mortalité. On a dit que pour connaître Dieu, il faut une éternité, donc il va falloir gérer notre mortalité, notre mort, notre aveuglement spirituel. Mais la croix est la solution à tous ces problèmes. Elle nous touche, notre indifférence, on ne peut pas rester indifférent, tant d'amour. Elle règle le problème de notre péché qui nous sépare de Dieu. Et qui fait que souvent on ne veut pas connaître Dieu. La croix règle le problème de notre mortalité parce qu'il est pris sur lui. Cette malédiction de la mort afin de nous donner la vie. La croix règle le problème de notre méconnaissance de Dieu, de notre aveuglement, parce qu'elle révèle vraiment et sa grandeur, et sa justice, et son amour, et sa grâce. Donc Dieu a exaucé la prière de Jésus. Dieu va exaucer cette prière. Jésus a été glorifié et il sera glorifié. Pour notre plus grand bien, notre plus grand bonheur. Et je me dis, puisque cette prière de Jésus, cette prière parfaite a été exaucée, ne doit-on pas nous chercher, rechercher cette communion avec Dieu, cette connaissance avec Dieu? Chacun de nous ici ce matin, on peut avancer, on peut découvrir plus sur Dieu, on peut grandir dans notre connaissance avec Dieu. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez faire cette année pour mieux connaître Dieu, sachant ce que Jésus a prié pour vous et ce qu'il a accompli pour vous et ce que Dieu va faire pour vous? Sachant que cette connaissance de Dieu, c'est la meilleure chose qui soit. C'est déjà la vie, c'est la vie la plus épanouissante, c'est la vie éternelle, c'est la vraie vie. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux connaître Dieu? Je vous laisse quelques idées pour terminer. Déjà, prier dans ce sens, c'est les temps de prière, les moments de prière sont une manière de chercher la face de Dieu, de mieux connaître Dieu lorsqu'il nous parle dans sa parole, lorsque nous lui répondons. C'est pour ça qu'on fait 1000 heures de prière, c'est que pas juste pour faire mieux, mais pour que notre Église puisse mieux connaître Dieu, mieux discerner sa volonté, mieux l'aimer. Donc, prier dans ce sens de mieux connaître Dieu, mais je rappelle que Dieu pourrait répondre d'une manière étonnante, tout comme il a répondu d'une manière étonnante pour Jésus quand il a prié d'être glorifié. Il a répondu par la croix. En priant de mieux connaître Dieu, comme nous avons déjà vu dans les messages précédents, il se peut qu'il réponde d'une manière, en tout cas, inattendue de notre part. Mais sachez qu'il est à l'œuvre dans votre vie pour vous donner une meilleure connaissance de sa personne. D'autres idées pour mieux connaître Dieu? Peut-être une lecture, la lecture de la Bible, une lecture d'ouvrages chrétiens, d'ouvrages théologiques, qui est de très bons dans notre librairie, le Pain de Vie. Peut-être au lieu de chercher un divertissement facile, au lieu de gaspiller une heure devant l'écran, que vous savez à la fin être du temps gaspillé, écoutez les conseils de Pascal, le philosophe, et au lieu de chercher à combler un vide ou gaspiller le temps par le divertissement, tournez-vous vers quelque chose qui peut vous apporter une connaissance de Dieu. Je promets que vous ne serez pas déçus. Ce sera une expérience enrichissante. En tout cas, une chose je sais, c'est que Jésus n'a jamais ennuyé personne. Les réactions à la vraie personne de Jésus était toujours extrême, soit l'amour qui était prêt à le suivre et à rester près de lui pour toujours, soit la haine parce que ses propos et sa personne choquaient tellement. C'est la raison pour laquelle il va être crucifié. Les gens ne supportent pas ses propos, mais personne n'a été ennuyé par Jésus. Alors si votre Jésus vous semble ennuyeux, vous ne connaissez pas le vrai Jésus. Et je prie, et comme Jésus prie, que vous puissiez voir sa gloire, que vous puissiez être attiré par une connaissance de lui, et que cette perspective de passer l'éternité avec lui pour grandir dans une connaissance de sa gloire, de son amour, vous inspire et vous motive à vivre pleinement la vie chrétienne à laquelle il vous appelle.